Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Et si la culture afro avait enfin son grand rendez-vous à Paris? Bienvenue dans Mon Afro Paris, l'émission qui célèbre les talents, les parcours et les histoires inspirantes de la communauté africaine et caribéenne en France, à Abidjan et partout dans le monde.
Bravo, frangin.
Magnifique, hein.
Le carnaval, oui, à manger.
T'avais dit, moi.
Merci.
Terrence.
C'est magnifique ce que tu viens de dire, parce qu'en plus, les adjectifs que tu as mis sur chaque lettre de mon nom me représente vraiment.
Ici, on met la lumière sur ceux qui font briller l'Afrique autrement.
Sur scène, elle est un fauve en mouvement. Ses pas racontent des histoires, ses mains tracent des arabesques dans l'air et son corps tout entier devient musique.
Chaque semaine, retrouvez Soum Duval, entouré de ses chroniqueurs Steve, Cynthia et Fatih, pour des échanges vrais, des parcours inspirants et des moments de fierté africaine.
Les rôles qui n'ont pas trop... Je ne vais pas faire le super-héros, moi.
Ouais,
je vais faire le mec qui... Le traître, le menteur, le flic, le mauvais gars. Tu capes ce que je vais dire ou pas? Le méchant, le mec que tu détestes. Tu capes ce que je vais dire? C'est intéressant, je kifferais, moi.
Mon Afro Paris, c'est plus qu'une émission. C'est une célébration de notre culture, de notre identité et de notre excellence. Rendez-vous chaque vendredi sur Mon Paris FM et chaque samedi sur One Radio Abidjan 87.7 FM, présenté par Soum Duval avec Steve, Cynthia et Fatih. Mon Afro Paris, parce que l'Afrique se vit, se raconte et se partage.
Bonsoir Paris, bonsoir l'Afrique, bonsoir la diaspora, bienvenue dans Mon Afro Paris, l'émission qui raconte celles et ceux qui osent, celles et ceux qui transforment leurs idées en projets, leurs rêves en entreprise, leurs talents en carrière et leurs convictions en héritage. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne se raconte plus uniquement à travers ses défis, elle se raconte aussi à travers ses bâtisseurs, ses entrepreneurs, ses artistes, ses créateurs, ses visionnaires. Et ce soir, nous allons justement partir à la rencontre de personnalités qui, chacune dans leur domaine, participent à écrire cette nouvelle page. Nous parlerons musique avec un artiste qui porte la voix de la République centrafricaine bien au-delà de ses frontières, c'est Malabar Spiral, surnommé l'artiste du peuple, un homme qui a fait de la musique un outil de sensibilisation, de transmission et de fierté nationale. Ça va?
Oui, très bien.
Est-ce que c'est comme ça qu'on te surnomme, on te décrit?
Exactement, l'artiste du peuple.
Allez, bienvenue dans cette émission. Nous parlerons également investissement, entrepreneuriat et réussite avec Anaïs Nias, fondatrice de Triomphe Immobilier, une femme qui accompagne depuis plus de 16 ans celles et ceux qui souhaitent bien bâtir leur avenir à travers la pierre. Ça va?
Oui, ça va, merci.
Triomphe Immobilier.
C'est ça.
Le nom est bien choisi, hein.
Je crois bien.
Faut triompher dans la vie devant toutes ces difficultés et tout, et bâtir avec dans l'immobilier, c'est ton credo. On en parlera tout à l'heure. Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Et puis, nous allons parler également sororité. J'ai toujours du mal avec ce mot-là, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que les R se succèdent dedans. Sororité, ou que je ne suis pas une femme aussi.
Il y a la sororité masculine
aussi. Ouais. Avec le collectif Sorority, représenté par sa cofondatrice, c'est Sandrine Baikoula. Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît?
Oui, bonjour.
Ça va, la forme?
Ça va, merci.
On est très heureux de te retrouver dans cette émission. On est tranquille, on est entre nous. On parlera de ton collectif, de ce que vous faites exactement. Et puis, on parlera sororité, quoi. Entre hommes, femmes, tout le monde.
C'est ça.
Allez, le décor, il est bien planté. Et bien sûr, je ne suis pas seul. Toujours accompagné de mes chroniqueuses ou de ma chroniqueuse. Ce soir, c'est Cynthia qui est avec nous. Ça va, Cynthia?
Ça va, et toi, Duval?
Ça va, la forme, je suis là.
Je suis contente d'être là.
Comme tous les vendredis soirs, tu es contente.
Exactement.
Moi aussi, je suis très heureux de savoir que je vous retrouve et je retrouve le réalisateur de ce genre, Kyrian, qui est bien installé sur son fauteuil et qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes sur Mon Paris FM et sur One Radio à Abidjan. Et voilà, alors installez-vous ou que vous nous écoutiez à Dakar, à Abidjan, à Douala ou partout dans le monde entier. Restez confortablement bien positionnés dans vos différents canapés. On pourra discuter de toutes ces choses-là. On commence tout de suite avec une femme qui représente toutes ses valeurs pour l'Afrique. C'est Asha avec son titre Jailer. À tout à l'heure.
No, no, no. change, you're in change too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer.
Sur Mon Paris FM.
De retour dans cette émission, toujours avec nos invités. Vous allez bien, vous avez écouté cette chanson. On se reconcentre sur l'émission. Alors, Anaïs, ça va ?
Oui, ça va très bien, merci.
Ce n'est pas grave, c'est des incidents qui arrivent comme ça. Ça montre que ça va très, très bien. Qu'est-ce que tu pourrais me dire si je te dis triomphe en trois mots ? Ce serait quoi ?
Le prestige, l'implantation et l'ambition.
Et du coup... j'ai envie de parler de toi. Alors, Anaïs, en immobilier, avant de construire un immeuble, une résidence ou un patrimoine, il y a les règles fondamentales. Je pense que tu es d'accord avec moi. On ne bâtit jamais sans études préalables. C'est ce qui se raconte dans tous les livres et tout. On analyse le terrain, on évalue le potentiel, on identifie les risques, on dessine une vision. Et quand on regarde ton parcours, on comprend que tu as appliqué cette règle à ta propre vie. Avant Triomphe Immobilier, il y a eu des années d'apprentissage. La transaction, la gestion locative, le syndic, l'accompagnement d'investisseurs, la chasse immobilière. Tu as visité tous les étages du métier avant de construire le tien. Parce qu'un promoteur sérieux commence toujours par maîtriser ses fondations. Puis est venu le moment de l'acquisition. pas celle d'un bien, mais celle d'une vision. Une vision qui allait donner naissance à Triomphe Immobilier. Un nom qui, dans le fond, ressemble beaucoup à ton parcours, parce qu'un Triomphe Immobilier n'est jamais seulement une signature chez le notaire, c'est la concrétisation d'années de travail, d'épargne, de sacrifice, de stratégie. Et c'est précisément ce que tu accompagnes chaque jour. Tu ne vends pas seulement des mètres carrés, tu aides des familles à sécuriser leur avenir. Tu aides des investisseurs à constituer leur patrimoine, tu aides la diaspora à transformer des ambitions en actifs. Et ça, c'est une autre forme de construction. Au fil des années, ton entreprise est passée de stade de permis de construire à celui d'une véritable référence, un portefeuille de clients haut de gamme, des projets sur mesure, une expertise reconnue et surtout une réputation bâtie sur trois piliers que tout investisseur recherche. Confiance, expertise, résultat. Puis arrive naturellement l'étape de la valorisation, car lorsqu'un bien prend de la valeur, il faut savoir le transmettre. Et c'est exactement l'esprit de la masterclass. Parlons immobilier. Parce que tu as compris une chose que beaucoup ignorent encore. Le patrimoine n'est pas réservé aux initiés. L'investissement n'est pas réservé aux grandes fortunes. La transmission commence par la connaissance, alors tu ouvres les plans. Tu expliques les mécanismes, tu partages les stratégies, tu démocratises un univers souvent perçu comme inaccessible. Anaïs, dans un secteur où beaucoup parlent de rendement, toi, tu parles de vision patrimoniale. Là où certains vendent des biens, tu construis des trajectoires. Là où certains voient des immeubles, toi, tu vois des héritages. Et finalement, ton plus beau projet immobilier n'est peut-être pas celui qui apparaît sur un acte de vente. C'est celui que tu construis chaque jour dans la vie des autres. Une pierre après l'autre, un projet après l'autre, une réussite après l'autre. Alors ce soir, dans mon Afro Paris, nous accueillons cette femme que tu es, cette bâtisseuse que tu es, de triomphe jusqu'à ce que tu apportes dans la vie des autres. Ça va ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est ton parcours ?
C'est mon parcours. Je ne fais pas encore de promotion bientôt, mais c'est mon parcours.
Ça y est, tu n'es pas loin d'en faire.
Je ne suis pas loin, oui.
Qu'est-ce que tu pourrais dire de toi, si toi tu devais te présenter ?
Je devrais dire de moi que je suis... comment je me décrirais ?
Oui.
Je ne me décris pas forcément comme ambitieuse, mais je me décris comme quelqu'un qui veut réussir. J'ai soif de réussite.
Tu as la soif de réussir ?
Oui.
Alors, comment tu... C'est vrai, hein, je l'ai dit un peu, tu as été curieuse, tu as fouiné, tu as cherché, tu as voulu, mais l'amour naît quelque part. Comment ça naît chez toi ?
Par... Moi, c'est la rage qui me pousse. C'est quand on me fait quelque chose ou quand on estime que je ne suis pas capable de le faire, c'est mon moteur.
Tu as été frustrée dans ta vie ?
Oui, comme tout le monde. Bien sûr, mais moi, c'est la rage de vaincre, en fait. C'est vraiment quand on me fait quelque chose, c'est ça qui me permet d'aller au-delà, en fait, des plans que j'avais initialement prévus pour moi.
Mmh. Du coup, quel a été l'élément déclencheur ?
Moi, j'ai été virée par une ancienne collègue qui avait racheté la boîte. Et je lui ai dit, je vais devenir ta principale concurrente.
J'espère qu'elle écoute. Hein.
En tout cas, elle a plus la boîte en question. Donc, ouais, moi, c'était vraiment... ouais, c'est ça. Parce qu'elle pensait que j'allais lancer mon agence et la concurrencer, alors que ce n'était pas le but. C'était juste une SCI. Nous sommes pour faire mes acquisitions immobilières.
Après, normalement, quand on travaille bien, on n'est pas censé avoir peur. Hein.
Normalement.
Bon, directement, tu as réglé tes comptes.
Ouais, mais aujourd'hui, ça me permet d'être ce que je suis au final, c'est que les gens me mettent des bâtons dans les roues pensant me freiner, alors qu'en fait, ils m'offrent juste des tremplins pour aller encore plus haut.
On dit souvent que l'immobilier est un des métiers, enfin, d'un meilleur levier pour construire son patrimoine. Selon toi, pourquoi autant de personnes hésitent encore à investir ?
Parce que je pense que j'ai l'impression qu'ils ne pensent pas avoir les possibilités et les capacités de pouvoir le faire.
Oui.
Ça passe aussi par un schéma. Qu'est-ce que faisaient les parents ? Moi, mes parents, ils étaient propriétaires. Ils ont acheté leur terrain, ils ont construit leur maison. Donc déjà, c'est un exemple pour moi. Je me dis, si mes parents l'ont fait en venant d'Afrique, moi, je ne peux pas ne pas le faire déjà pour commencer. Et ensuite, je pense que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas acheter, alors qu'avec juste avec un SMIC, on peut acheter aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un manque d'infos, de culture, de connaissances.
C'est aussi le fait que tu as baigné dedans et ça fait près de 16 ans que tu es. 16 années d'expérience dans le secteur quand même. Quel a été ton plus grand enseignement sur le terrain ? Sur le terrain, avec le jeu de mots que je veux faire, je ne sais pas si j'ai réussi.
Moi, mon plus grand enseignement, dans l'immobilier, c'est de la résilience. Ce n'est pas des métiers faciles. L'immobilier d'habitation, en tout cas, ce ne sont pas des métiers faciles. Et si on est fragile psychologiquement ou si on est trop susceptible et qu'on n'a pas la rage de vaincre et qu'on n'aime pas l'argent, on ne peut pas forcément avancer. dans ce secteur d'activité.
Tu accompagnes aussi beaucoup d'Africains de la diaspora, ou pas ?
Aujourd'hui, c'est principalement ma clientèle,
oui.
Aujourd'hui, la bourgeoisie africaine, donc la diaspora, ou alors les personnes qui viennent d'Afrique et qui souhaitent investir en France.
Mmh. Et quelles sont les problématiques auxquelles tu es souvent confrontée ? Enfin, c'est leurs difficultés, c'est quoi en général ?
Moi, la problématique que je rencontre le plus, c'est les gens, la plupart du temps, viennent me voir déjà pour trouver des HLM, alors qu'une agence immobilière ne propose pas de bien aux HLM. Et ça, c'est vraiment un manque de connaissances dans notre communauté. Et la plupart aussi cherchent que la location alors qu'ils peuvent être propriétaires. Moi, ma dernière cliente avec qui j'ai signé un bien, de base, elle venait pour louer un bien à 4 500 euros par mois. Et c'est moi qui l'ai convaincue d'acheter. Et elle a acheté à 1 200 000 euros. Donc en fait, même s'ils ont les capacités, ils se cantonnent justement à être locataires alors qu'ils peuvent être propriétaires.
Selon toi, c'est quoi l'erreur fréquente qu'ils font ?
Alors pour les Africains qui viennent de France, c'est un problème de fonds. Rapatrier les fonds, alors qu'aujourd'hui, c'est possible de le faire via des banques, via des notaires. Enfin, c'est juste, il faut bien le faire et ne pas... vraiment faire les choses correctement. Et ensuite, pour ceux qui sont nés ici, la diaspora, c'est, je pense, un manque d'élévation.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire avec que les notaires existent, qu'il y a des personnes qui peuvent aussi aider à chercher des banques,
oui.
Des prêts, voilà, les courtiers, pardon. Je cherchais le mot pendant que je le disais. Qu'il y a des courtiers. Je sais que moi, quand j'ai acheté, j'ai découvert les courtiers. J'ai découvert que les courtiers, ça existait.
D'accord.
Je ne savais pas qu'on pouvait passer par un courtier. J'ai été chercher banque par banque. une fois que je suis arrivée à l'agence immobilière, on m'a dit, mais on va vous mettre en contact avec un courtier. J'ai dit, mais moi, j'ai déjà cherché mes banques.
Ah oui.
Et en fait, au final... je me suis rendu compte que ça fait gagner des semaines, des heures, des jours de recherche. Quoi.
En fonction de chaque banque, il y a un client type. Et ça, les courtiers le savent. En fonction de ton profil, tu seras orienté vers une banque justement qui accompagne ce type de profil-là. Nous, on ne le sait pas. Il y a des banques qui sont adaptées à nos profils.
Mm-hmm.
Et ça, nous, on ne le sait pas. Et le courtier, il est là pour nous apprendre, pour nous accompagner et pour mener ce projet à la réussite parce que tant que tu n'as pas ton prêt, le courtier, il n'est pas rémunéré. Donc, en fait, il a le même intérêt que toi, comme une agence immobilière a le même intérêt que toi, c'est que tu achètes. Parce que tant que ce n'est pas fait, nous, on n'est pas payé.
C'est ça. Mais aujourd'hui, comment on peut faire pour informer les gens un peu plus ?
Je sais. Sincèrement, moi, aujourd'hui, ce n'est plus ma clientèle cible.
Mm-hmm.
L'accompagnement des primo-accédants à cette échelle, parce que j'avais une agence précédemment, Stéphane Plaza, et j'accompagnais cette cible-là. Aujourd'hui, vu mon implantation géographique et vu les biens que je propose, je ne peux pas forcément accompagner cette cible-là parce que je ne suis plus dans le secteur géographique qui me permet de le faire. Mais je pense qu'il faut venir aussi à la masterclass parce que c'est ce que je vais apprendre aux gens. La masterclass, ça sera composée de professionnels. J'ai mon avocat. C'est mon avocat personnel en droit immobilier. J'ai une directrice de banque privée. Bon, après, les banques privées, bien évidemment, ça cible une autre clientèle. Mais elle a quand même fait des banques classiques, donc elle connaît. J'ai aussi une propriétaire d'école supérieure. Donc, elle forme du CAP au MBA. J'ai une rentière, un gestionnaire de patrimoine. Enfin, toutes ces personnes-là seront là pour expliquer à tout un chacun comment se lancer dans l'immobilier, comment investir, comment se former, comment connaître le droit immobilier.
Donc en fait, se lancer dans le métier d'agent
aussi possibilité de se lancer aussi dans le métier de professionnel de l'immobilier, de manière large, pas que agent immobilier. Mais je pense qu'il faut se renseigner, s'éduquer aussi, comprendre et ne pas rester cloisonné dans ce que nos parents ont connu en venant. Voilà, je pense qu'il faut aussi vouloir mieux.
Après, c'est vrai que ça doit être le côté culturel. Quand on était enfant, moi je sais que je suis guadeloupéenne, toutes les personnes la plupart des personnes sont propriétaires de leur maison, ils achètent leur terrain, ils ont fait construire et tout. Et c'est l'image qu'on a, tout le monde est propriétaire. Aujourd'hui, quand on arrive à Paris, on voit tout le monde dans des appartements. Moi, j'ai découvert la location ici quand je suis arrivée, parce que quand j'étais étudiante, et ça nous paraissait facile, parce qu'on n'avait pas les travaux, on donnait l'argent et le propriétaire faisait le reste. Mmh. Est-ce que, du coup... c'est pas une facilité, justement.
Alors, d'être locataire, après, c'est pas une tare en soi d'être locataire. Hein. Moi, je suis locataire aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut aussi avoir son patrimoine. Aujourd'hui, quand on veut faire de l'investissement immobilier, quand on veut que ça nous génère de l'argent, clairement, le mieux, c'est d'être locataire, clairement. Parce que quand tu vis dans un appartement, ça ne te fait pas gagner d'argent. Mmh. Donc, dans tous les cas, il faut que ça fructifie. Donc, en fructifiant, il faut le louer. Mmh. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est l'erreur de... Moi, c'est le HLM dont je parle. Mmh. Pas le fait que d'être locataire, c'est vraiment le HLM. Parce qu'on nous a parqués dans ces endroits-là.
Oui.
Il y a 40 ans. C'était il y a 40 ans, hein, la première génération d'Africains qui sont venus en France, à peu près 40, enfin un petit peu plus 50, 60 ans. Mmh. Et de vouloir y être aujourd'hui, alors qu'on est la première génération à être née en France et qu'on a les capacités d'obtenir et de pouvoir avoir plus.
Et pas se décrocher de cette image-là. Mmh.
C'est très, très, très compliqué. Je trouve ça vraiment dommage. Mmh. Parce que je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible.
Mmh. Tu en parlais tout à l'heure, tu organises prochainement cette masterclass, c'est Parlons Immobilier.
C'est ça.
C'était important pour toi de créer un espace d'échange et de communication autour de ce sujet-là?
Oui, parce que récemment, j'ai commencé à faire du networking et je me suis rendu compte que beaucoup parlent d'immobilier, mais qu'ils n'en font pas forcément parce qu'ils font de l'immobilier le lundi, le mardi et tout le reste de la semaine, ils bossent ailleurs. Donc en fait, ils ne sont pas réellement des professionnels de l'immobilier et je ne les trouve pas forcément tous légitimes. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé de réaliser cette masterclass parce qu'aujourd'hui, je pense être légitime. Ça fait 17 ans que je fais de l'immobilier. Je suis à ma deuxième agence immobilière. J'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier. J'étais assistante. J'ai commencé assistante à l'accueil. Ensuite, jusqu'en arriver à ouvrir moi ma propre agence. Et aujourd'hui, j'ai envie de transmettre ce savoir et d'être entourée de vrais professionnels. Et c'est ces professionnels-là qui m'entourent, moi, aujourd'hui. Par exemple, la directrice de banque privée, j'étais au téléphone avec elle ce matin. Vraiment, c'est des personnes qui m'entourent, avec qui j'échange, avec qui je travaille. Et ce sont vraiment des pointures dans leur secteur.
Qu'est-ce qui va se passer à cette masterclass? On parlera de quoi exactement?
Alors, on parlera d'investir en France et en Afrique. Comment se créer son patrimoine? Comment vivre de l'immobilier? Le droit immobilier à connaître aussi. Il y a un minimum à savoir quand on veut se lancer dans l'immobilier. La fiscalité. Parce que quand on achète, il y a beaucoup de choses qu'on peut déduire justement pour payer moins d'impôts. Mmh. Donc ça, c'est aussi à savoir, à connaître. Et comment, par exemple, j'ai une architecte intérieure qui sera avec moi, Massiata Diaby, comment meubler son bien en fonction de si on veut y vivre et si on veut le mettre en location. C'est parce que ce n'est pas la même chose. Mmh. On ne dépense pas des milliers et des cents quand on veut le mettre en location et le louer.
Mmh. Et c'est quand déjà? Tu me rappelles les dates?
C'est le samedi 20 juin à 17h. Alors, le lieu est tenu secret. C'est dans un emplacement premium, pas loin de l'agence pour le coup. Vraiment, je ne pouvais pas mieux faire en termes d'emplacement.
Okay.
Et ce sera dans un restaurant, donc c'est un dîner masterclass. Et l'adresse sera transmise uniquement aux personnes qui seront inscrites.
Et comment on s'inscrit?
On s'inscrit en ligne sur le site masterclass.triompheimmobilier.com, disponible sur tous mes réseaux sociaux et disponible aussi sur mon site triompheimmobilier.com.
Aujourd'hui, entre la France et l'Afrique, où vois-tu les meilleures opportunités immobilières?
En Afrique. En Afrique, en France, aujourd'hui, être propriétaire, c'est dur. Parce qu'on a des grosses taxes foncières, des grosses charges, un encadrement des loyers. C'est-à-dire que moi, j'achète mon appartement, j'ai 1000 euros de remboursement à faire tous les mois. Mais par contre, l'encadrement des loyers me dit que je dois mettre mon loyer qu'à 800 euros. Bon, au final, je perds de l'argent. Donc ça, c'est très compliqué.
Les charges.
Voilà, je perds de l'argent parce que oui, il faut rajouter les charges de copro, il faut rajouter l'assurance. Il y a plein de choses qui viennent s'ajouter et au final, c'est difficile d'avoir un bien rentable en France, c'est possible, mais c'est plus compliqué en tout cas dans Paris et dans l'Île-de-France en première couronne. Mais en Afrique, il y a plus d'opportunités parce que l'immobilier est déjà moins cher, qu'on peut plus facilement faire du Airbnb alors qu'en France, c'est conditionné.
Il y a de l'espace aussi.
Il y a de l'espace, il y a de quoi construire, c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique, comme il y en a aussi beaucoup en France. Mais je pense que l'avenir se trouve en Afrique, en tout cas en termes d'immobilier.
Alors, les amis, Sandrine, t'as écouté tout ça? Est-ce que ça te donne envie d'investir dans l'immobilier?
Ouais, c'est déjà fait.
Ah, bravo. Ah.
Voilà, une qui a compris depuis longtemps. Et tu vois, les actions qu'elle mène, qu'est-ce que ça t'inspire? Toi qui parles de sororité.
Et tout à fait dans le mood, hein. C'est ce qu'il faut faire, c'est investir. Là, en France, effectivement, il y a une saturation, mais en Afrique, c'est clair que là, on peut avoir des terrains à rien du tout. Et franchement, il ne faut pas avoir peur, quoi. Il faut y aller. Moi, j'y étais il y a 3 semaines en Angola, et je ne parle pas le portugais, mais j'ai été là-bas parce que moi, je suis congolaise d'origine. Et on a investi, on a mis, avec mon mari, on a pris des terrains. Voilà.
Parfait.
Plusieurs, et là, on construit.
Génial. Alors Malabar, toi tu es centrafricain. Est-ce que c'est quelque chose que tu te projettes dessus? Tu y es déjà?
Comme... En tout cas, je pense à cela, mais c'est très, très encourageant. C'est à féliciter. Il faut que voilà, la jeunesse africaine surtout prenne des risques. C'est très, très encourageant. Donc je félicite et j'encourage les gens à y participer.
Merci beaucoup.
C'est génial. Malabar, centrafricain, toi t'es d'origine congolaise et toi du coup?
Moi je suis capverdienne et sénégalaise.
Ok, ben, j'allais dire sénégalaise moi. Je voulais vous inviter à aller tout de suite au Cameroun, écouter une chanson qui est extraite du nouvel album de Teik. Dans cet album, il fait vraiment vivre la culture camerounaise et j'aime beaucoup tous les titres. Et le titre qu'on va écouter là, c'est Ndolo, Ndolo l'amour. À tout à l'heure.
Ce que je t'ai fait, tu me l'as fait, tout est remis à zéro, zéro. Et pour une fois, on est ex aequo. Je t'ai blessé, tu m'as blessé, ça là c'est le vrai Ndolo, Ndolo. Encore une fois t'as mal, la douleur ne fait qu'amplifier. Cracher sur nous deux encore, je t'ai trop longtemps fait mal. Mais cette fois tu t'es relevé, ouais. Mentalité à des bailleurs, et tu t'es noyé dans le Ndolo. Noyé dans le Ndolo, mais cette fois tu n'as pas pu laisser. Oh. Toi aussi t'as osé, on est tous les deux dans le Ndolo. Tous les deux dans Ndolo. Oh mami, on a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré. Oublie le jump, la gobe. Rent Anoda, nous deux Ova, Casanova. Soulage ton ego, on est à ex-ego. Mami, on est ex-ego. Ce que je t'ai fait, tu me l'as fait, tout est remis à zéro. C'est le vrai Ndolo, Ndolo. Ndolo. On est tous les deux dans Ndolo. Tous les deux dans Ndolo. Oh, mami, on a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré. On est tous les deux dans Ndolo. Tous les deux dans Ndolo. Oh, mami, on a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré. J'avoue, je suis perdu, je fais que chercher mes mots. J'ai laissé plusieurs litres d'hémoglobine. Et chez tes copines, je ne vois que des défauts, man. C'est toi la plus grosse bitch de tes copines. Je n'aurais pas parié, non. J'ai sous-estimé toutes tes capacités, non. En une seule nuit, les rôles t'as échangé. Tout est mélangé, tu m'as laissé comme un con. On est tous les deux dans Ndolo. Tous les deux dans Ndolo. Oh mami, on a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré. Nous deux on va, Casanova. Soulage ton ego, on est à ex-ego. Mami, on est ex-ego. Ce que je t'ai fait, tu me l'as fait. Tout est remis à zéro, zéro. Et pour une fois, on est ex-ego. Je t'ai blessé, oh, tu m'as blessé. Ça là, c'est le vrai Ndolo, Ndolo.
Ce n'est pas quand je vais m'attacher que tu vas me dire que tu as une vision différente. Il fallait être voyant avant qu'on ne se rencontre. Toi et moi, c'est lié. L'amour que j'ai pour toi est large comme ton derrière. Tu as vu tes fesses, non? Tu ne vas nulle part, maman. Il dit que si tu es l'eau, je suis le détergent. Toi et moi, c'est coquille avec plantain. Voilà.
Mon Afro Paris, c'est votre rendez-vous africain tous les vendredis soirs sur Mon Parquet FM.
Et oui, les débats... L'immobilier, ça nourrit beaucoup de discussions, beaucoup de débats. On parlait de Luanda, on parlait de Kinshasa, on parlait d'Abidjan, on parlait même des Antilles. L'opportunité qu'on a, l'intérêt pour la diaspora de ne pas acheter tout de suite quand on arrive en France. Justement, ce que tu disais, Sinsa, c'est intéressant. Quand on arrive en France, on se dit qu'on est sur le départ. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne se met pas dans un achat tout de suite.
Voilà. Après, en Guadeloupe, on a l'héritage de nos parents, de nos grands-parents. Ce sont des terrains qui coûtaient très peu. Je sais que mon grand-père, par exemple, je raconte ma vie. J'espère que mes parents ne m'écoutent pas.
On aime l'écouter.
mon grand-père, par exemple, il a, quand il a acheté son terrain, il a acheté un champ de canne.
D'accord.
Okay.
Et ça valait très, très peu, en fait. Il a débarqué un jour quelque part. Il a dit, tiens, je veux ce terrain-là. Il a acheté le champ de canne. Il a acheté plusieurs champs de canne. Et comme ça, il a fait construire. Mais ça valait rien du tout. C'était un vieux champ de canne et tout. Et c'est comme ça que beaucoup d'Antillais qui vivent à la campagne ont réussi à avoir leur terrain. Après, il y a aussi les histoires d'esclavage, les histoires des arrivées des Indiens aussi en Guadeloupe qui ont eu des terrains pour dédommager leur travail, pour etc. Mais en fait, on a cette culture de la construction de maisons. Mais pas de l'achat immobilier, oui, mais de la construction.
Mais cette culture, on l'a aussi en Afrique, hein, francophone, je ne sais pas pour l'Afrique anglophone, mais on l'a vraiment. D'ailleurs, ça pose beaucoup de conflits immobiliers, beaucoup de conflits fonciers.
Des malfaçons.
Je sais par exemple qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de conflits autour du foncier. Il y a plein de lois qui sont votées tout le temps parce que entre la décision des chefferies traditionnelles qui sont propriétaires des terres au départ, qui les vendent, et puis les décisions ministérielles, il peut y avoir plein d'arrêtés et plein de documents de vente qui sont sortis, et finalement, un gars se retrouve avec deux vendeurs. Voilà, un terrain, il y a un autre propriétaire, il ne le sait pas, et finalement, on se retrouve à la justice. Il y a plein de conflits comme
ça. Du coup, il faut vraiment bien s'y connaître.
Il faut vraiment l'assainir, parce que malheureusement, comme tu le dis, par le passé, les villes moins développées, les terrains, ça coûte rien du tout. Ça coûte, t'as des 1000 mètres carrés, des 500 mètres carrés qui ne coûtent rien du tout, parce que les gens ne connaissent pas forcément la valeur au départ. Et quand le développement arrive, c'est-à-dire les routes, les entreprises, les banques, etc., finalement, ces terrains commencent à prendre de la valeur. Et les descendants veulent construire pour faire des Airbnb ou s'installer complètement dedans. Alors, on se retrouve que papa, à l'époque, il avait fait une location-vente avec un planteur qui, lui, devait utiliser le terrain pour vendre. Mais en fait, la location-vente, c'était 10 ans. On est 15 ans après, le mec, il dit, ça m'appartient, j'ai fait une location-vente avec ton père. Donc, après 15 ans, ça m'appartient. Et le fils dit, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux construire sur mon terrain et ça crée beaucoup de problèmes. Donc oui, il y a beaucoup à dire sur ça. Et je pense que dans Parlons Immobilier, tu auras de vrais intervenants. Est-ce que les intervenants, les professionnels de l'immobilier que tu invites à cette masterclass, c'est que des professionnels qui sont résidents ici en France?
Oui, principalement.
Principalement. Alors, Parlons Immobilier, c'est champ large, pluriel, France, ou aussi vous allez toucher l'Afrique?
Alors, le thème, c'est Parlons Immobilier, investir en France et en Afrique.
Ok. Donc, on aura beaucoup de choses à se dire à ce jour-là.
Et quand je parle d'Afrique, je parle vraiment de manière large de l'Afrique, c'est-à-dire le Maghreb aussi, et l'Afrique subsaharienne.
Du coup, tu vas présenter aussi ton master... Ta masterclass dans d'autres pays?
La masterclass dans d'autres pays, c'est pas prévu. J'ai mis 17 ans déjà à faire la première. Je suis pas pressée. Mais après, à terme, j'ai des projets aussi pour l'Afrique de l'Ouest.
T'inquiète, tu vas prendre goût. Je sais de quoi je te parle. Tu vas vraiment prendre goût et ça va venir très vite, les autres. Allez, c'est l'heure de la découverte de Cynthia. À tout de suite.
Modèle, impactant, inspirant et innovant, c'est dans Découverte.
Lumière sur les talons blancs du Burkina Faso. Je vais vous parler de la princesse du peuple Mossi, la princesse Yenenga. Comme il l'est précisé dans plusieurs écrits, l'histoire de Yenenga a été majoritairement partagée oralement. Plusieurs versions sont contées, mais la base reste inchangée. Yenenga est issue d'une famille royale, fille du roi Naba Nedega, j'espère que je l'ai bien dit, qui régnait sur le royaume d'Agomba, qui est passionnée par les animaux, notamment les chevaux. Elle pousse très tôt son père à lui enseigner l'art de la maîtrise de monter un cheval, malgré le fait que c'était un domaine réservé uniquement aux hommes. Ce qui fut facile, car c'était la protégée de son père. Au fil des temps, elle devient une très bonne cavalière, mais surtout la première guerrière Mossi. Elle était redoutable. Grâce à elle, la cavalière de son père devient une des plus puissantes des alentours, et elle se voit être à la tête de l'armée de chaque bataille. À partir d'ici, l'histoire se divise un peu. Certains disent qu'elle aurait quitté le royaume de son père car elle souhaitait changer de vie. D'autres disent qu'elle voulait une vie de famille, être mère, mais son père refusa. Une autre version dit qu'elle se serait perdue dans la forêt après une bataille et d'autres disent encore que son père voulait la marier et qu'elle refusait ce destin. L'histoire se rejoint sur une chose. Elle a rencontré un jeune chasseur d'éléphants issu d'un sang royal et tombe éperdument amoureuse. Tous deux donnent naissance à un garçon qu'ils nomment Wedragaoko.
Ouédraogo.
Ouédraogo, pardon, ce qui signifie cheval. En guise de réconciliation, elle confie son fils à son père, le roi Nabanidega. Je ne sais pas lire, pardon. J'ai des problèmes. Le grand Naba. Et celui-ci devient à son tour un cavalier et également le père fondateur du peuple Mossi.
Oui.
Vous pourrez trouver plusieurs ouvrages qui parlent de son histoire, de l'épopée de Yenenga, dont celui de Aurélie Kweta, qui s'intitule « L'épopée de Yenenga ». C'est une conte d'une princesse d'Afrique.
D'ailleurs, si vous cherchez l'origine du nom étalon de Yenenga, c'est bien à partir d'elle, justement.
Ouais.
Ça parle de sororité, de cette femme qui a été un homme, finalement, dans toutes les actions qu'elle a menées et qui a posé le respect, étant femme, dans un peuple très patriarcal, dans une culture où la femme n'est pas forcément au premier plan. Elle s'est imposée tout de suite et c'est vraiment une très belle histoire. Hein. C'est un vrai symbole au Burkina et j'aime bien entendre parler de cette histoire-là, moi.
Moi, j'aime bien les histoires des princesses qui font des métiers d'hommes.
C'est bien. Et il y a des films qui ont été faits. Hein, les grands réalisateurs cinéma, du cinéma burkinabé ont réalisé son histoire. Et même au cinéma, il y a le FESPACO. Au FESPACO, le plus beau des prix au FESPACO se nomme l'étalon de Yenenga. Justement, c'est un hommage à cette grande dame de l'histoire. Parlons de sororité. Toi, Sandrine, alors, qu'est-ce que tu mets dedans?
Bah, je mets l'entraide, je mets le soutien, je mets aussi le partage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la société fait que chacun s'individualise et est dans son coin et souffre dans son coin. Et on a besoin, en fait, de se retrouver entre humains. Aujourd'hui aussi, il y a la technologie qui fait que chacun, voilà, on pense vivre, on vivre la vie des autres à travers les réseaux.
C'est vrai.
Et là, on aimerait casser un peu cette vague-là et faire qu'on se voit pour de vrai à des moments et on discute de tous les sujets. Voilà.
J'ai coutume de dire que quand on pense à une action, c'est peut-être parce qu'on a vu un manque. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas suffisamment de soutien entre les femmes?
Ben, les femmes ne se soutiennent pas, naturellement. on est un peu comme ça, ce n'est pas qu'on ne veut pas se soutenir, mais on est tellement omnubilé par nos vies et on a tellement de charges qu'au final, on se dit qu'on n'a pas le temps pour nous. Et donc, on ne va pas vers les autres femmes parce qu'on se dit qu'on a déjà suffisamment à s'occuper. Mais ces autres femmes peuvent nous apporter des choses et il faut qu'on soit consciente de ça. Et souvent, on a des préjugés où la femme est très stéréotypée aussi dans plein de trucs. Donc, on veut casser ça et montrer le contraire.
Anaïs, toi qui es dans l'immobilier, est-ce que beaucoup de femmes se lancent comme toi dans l'immobilier?
Non, il y a très, très peu de femmes dans l'immobilier. Mais par contre, moi, j'ai que des femmes, enfin, presque que des femmes dans mon agence. Que je préfère travailler avec les femmes, pour le coup.
Tu vois, il y en a une qui aime les femmes, qui soutient les femmes, qui leur donne des opportunités.
C'est plus simple de travailler avec les femmes, de toute façon.
Alors, est-ce que l'idée, c'était justement dans un esprit de solidarité féminine ou c'est parce que, comme tu l'as dit, c'est très simple?
C'est parce que déjà, c'est plus simple de travailler avec des femmes, je trouve, personnellement. Et oui, dans un esprit de solidarité aussi, parce qu'on est très peu à être dans l'immobilier. C'est un milieu très masculin. Avec tout ce que ça implique. Donc oui, pour moi, c'est un plaisir de travailler avec des femmes.
Si tu avais un message à lancer à des femmes qui hésitent encore à se lancer dans l'immobilier, qu'est-ce que tu leur dirais?
Lancez-vous. Après, oui, il faut avoir une force de caractère aussi. Hein. C'est pas forcément très simple d'être dans l'immobilier.
Mais, est-ce que ça se forge sur le terrain?
Le caractère. Je pense qu'il faut en avoir un petit peu déjà de base.
De base.
Et après, oui, bien évidemment, le caractère, comme on dit, ça se forge. Donc, ça veut dire qu'au fil du temps, des années, notre caractère évolue et justement devient plus fort automatiquement. Mais oui, bien évidemment, ça forge dans l'immobilier, mais il faut avoir une base aussi. Ce n'est pas fait pour tout le monde.
Toi qui travailles tout le temps avec des investisseurs, quelle est la différence entre celui qui rêve de réussir et celui qui réussit?
C'est celui qui le fait et qui passe à l'action. C'est ça la différence. Il y a beaucoup de rêveurs. Il y a énormément de rêveurs.
Je suis le premier.
Ah oui,
ouais. Mmh. Je rêve tout le temps. J'ai 1 million de dossiers, de projets que j'écris tous les jours sur mon ordinateur.
Mais il faut les faire. Il faut les faire, il faut passer à l'action. Et puis, le processus de réussite, c'est ouais. l'échec aussi. Et ça, c'est ce que la communauté a du mal à comprendre. On a honte de l'échec, mais ça fait partie du jeu. Même si c'est dur, c'est difficile à encaisser, mmh. mais ça fait partie du processus.
Quel est le meilleur investissement pour toi ?
Pour moi, le meilleur investissement, bah, c'est les immeubles de rapport, clairement. Un immeuble de rapport, c'est un immeuble avec, qu'on peut diviser en plusieurs appartements. Mmh. Donc, c'est, pour moi, c'est ça le meilleur investissement aujourd'hui en France.
Pourquoi ?
Enfin, parce que tu... Alors déjà, un immeuble de rapport, bah, il faut l'acheter pas cher, ouais. clairement. Le rénover. Et en fait, si tu l'as en termes de rentabilité, tu as plus de rentabilité parce que tu as plus de sources mmh. de revenus, parce que tu as plusieurs loyers. C'est okay. ça le meilleur investissement aujourd'hui.
J'ai entendu parler aussi de vente aux enchères. De vente aux enchères. T'en penses quoi, toi, de cette pratique-là ?
Bah, tout le monde y va. Donc, au final, ouais. c'est plus forcément très intéressant parce qu'on achète au prix mmh. de vente classique.
Finalement,
c'est juste ouais. que la mise de départ est plus basse. Mais plus il y a de personnes qui surenchérissent, bah, plus le prix mmh. du bien augmente. Donc, oui, on peut faire de bonnes affaires. Mais comme on peut aussi faire de bonnes affaires en allant chercher soi-même ou en passant mmh. par une agence immobilière aussi. Mmh.
En tout cas, on rappelle que ton événement Parlons Immobilier, c'est bientôt.
Le 20 juin.
La date n'est pas secrète, mais le lieu, il est secret.
Oui.
Il faut juste aller sur tes différents réseaux sociaux et prendre s'inscrire. Son pass, s'inscrire.
C'est ça.
Et la personne qui s'inscrit aura toutes les informations. Ça sera en privé du coup.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des places limitées ?
Oui. Justement.
Okay. Donc, il faut se dépêcher de venir.
Exactement.
Tu pourrais peut-être laisser un numéro de téléphone aussi ou pas ?
Non.
Non ? Donc, tout se passe sur les réseaux sociaux. Très bien, pas de souci. Alors, n'hésitez pas à y aller. On a eu beaucoup de plaisir à te recevoir, à parler
Merci
de ton
beaucoup.
Projet, de toi, de ton parcours. C'est très inspirant
Merci.
Et puis ça donne envie de venir découvrir ça sur Parlons Immobilier. On te souhaite bon vent.
Merci beaucoup. Et puis, merci de m'avoir invité. Merci pour votre accueil. Je suis ravie d'avoir rencontré les invités. Je pense que je prendrai ton contact.
Tout à fait. Ouais. On te dit au revoir avec une chanson de Ferregola. Moi, j'aime bien la musique congolaise, la rumba. Je ne sais pas pour vous. Hein, rumba congolaise. Hein. Malabar, rumba. Et musique centrafricaine, il y a beaucoup de rapport avec le sango. Et
Exactement.
Le... Voilà. Donc, on va écouter cette chanson de Le Troisième Doigt de Ferregola. À tout à l'heure.
Lettre K. Cajou de Colombe. Jésus de Nyon, ce mystère, le Valova. Ça, c'est le capitaine qui amène la rumba congolaise au bon port. Papi Kake, Vote Singa Toukle XEL, Chris Chabani Nunda.
Ese mweto na kanga motemai, Kajoute kolongo komi sangai kizenge. Soki osimbi ngai na lenga kaneti kuraye. Kongo na ikuma dimbo yunga ina temelaka Nibumu na yeso kina lalele mwa pandoto pepe Kajou de kolo
Paolo de Souza ya blandune de Souza
Pese mweto na kanga motemai Pese ne ya pambe komisa ngai kizenge Soki asimbi ngai na lima kaneti nina inge Kongo na ikuma dimbo yunga ina temelaka Nibumu na yeso kina lalele mwa pandoto pepe Kajou de kolo
Shida Ibula, Lolot Molisho
Pese mweto na kanga motema tambo na bandaka Kwa santi e posyo ya plesi lelo na komi nangai Konsterne
Matinzo be mkonza la sheri
Hoteli singa misone timoto amisana nekolama Nakoni kajolo tinini lobito zala kyo seka monamu Oso jeni
Et maître Hakim Kabongo, Kamba immeuble Kukase Kongolo.
Et pas là, yokuna soki bolingo et silie. Yanga bolingo et sanangona nuka jou.
Moyo Lorenzo.
Tu la testa lira tirne feye. Papa nangaye. Nanuna yokate basilani.
Yves Mumbata.
Yanga na ye moto akokota kotikala na soni. Kwa memanga. Et bala sentima. Elengi lokola ndobo. Amisi na kangeni.
Dadi Mavungu
Fungo la tambo finu kuna yo kansunga na swa mwa peti Na degiste pla ple fere plezir lange si e gonfle Evite nga na repa na kolia na nga fina tombo Na toka neti mota zolia na lokoso
Rose ya fede di
Na toka neti mota zolia na lokoso ye Na toka neti mota zolia na lokoso
Kam se mvoma, mvoma deja
Aïe.
Kam se mvoma Mbayo sila
Plaisir, merci.
Le fils et le Camerounais célèbre. Ya Flora Miokone.
Kajou disparaître na fila ngai.
Kokot mangung.
Na salinyo songa na zobikate. Est-ce que na kata prison gana kozwa kérison? Na meli bakisi aboko kwea lenge na ndenge solution ikelepe. Osa manga mupesu, ata sa mungwa na koliayo. Osa likaya ba mutsambu, ata na beka ina koliayo. Ata ba idiote,
Shabani Reko.
Ata ba ndongoli yote, ayi.
Christiano Sakweti.
Ata ba mungi yote,
Do Ebonda, Maître Shura, Olivier Madiata. Chérie Kiri.
Libako bolingo na betangi bien tala mala na ngalelo na komo lukanze la lo
machuda
na komo osanga na ba plaisir na komo lukanze la lo
Jean Kabongo Dieu merci kokani
poso kisinga kuno tsenga manza ko katinga formoti kinga bolumbo kangi bisa kozonge pai na bino chero poinga le langa nzoke zala kawe talanga na beli kwa kare mama e
ah papa Nabigo balanga na mbongo ba famille ba mira masamba mendenge nino koma kozonga lokola taba le 22 décembre oyo basala ke projet balé le 25 soki le 25 té le 31 go legaté na salaire ya yo
kalaté de pofote nangé bongo a misusi po prometa kinga dala ni chéri na kolia fouwi té komi lisusu pour na lia fouwi fo nga na souffrir na mono c'est pas juste Basongi songi babo mi love tala suse konyo sakana na badezi na mai na sangili susu mwaye ya ko saisir de colonne ba bon souvenir et panange sala ki nourriture de colonne
William Chen Christiana Kwasa Pole Pole Char
sala lokola na sinine bale loboko na bimise na sobele la nto Ya ko sove mamse kuchu
Gino wel ngoya ya maile
C'est vrai, na kanga miawa Na forteresse ya basoliti Ya ko libere nga kajou de kolon
Freddy boku la kamitera kinge
L'amour, loko la kita bokonzi Ese nga kamo komi bale me sato te mital note Elingi kaka moto moko pichu nzita
Hermene Kaba, Diane Via, Domaze La Duchesse La Didi de Kamba Tambi Rouge Joe Malanga Peter Kokobi Samir Plein de Saint-Denis
J'ai rassemblé un plaisir nangé salaka na maboko no kajou yo moto loba ki mo sapina nga misa tu ezali elle batterie attention ya plaisir ya mon abisso ozala ki gardien pour moi ni lelo merci na ya munene
ya bo
na songa mukete
ani bobo
chéri yo disparaître na vie nangai
nzombo fosti
na salinyo songa na zobi kate
la reine aminata
est-ce que na kata prison nga na kozwa guérison
malubombo
na meliba kisi ya bokoko ya lenge na ndenge solution ikeleve posa manga mupesu
ata
sa mungwa na koliayo posa likaya ba mutsambu ata na bekai na koliayo ata ba ikiyote
kobo masola mignon
ata ba dongoliyote
Fabrice Mbola
Odongola na bien Odongola kako Tchweke Esala nga mwa chiki chiki
Anthony Chiyombo
Tchweke
Sile ya mate Aigle Jaune Bona Lema Junior Mwanda General Davira ya mama Christine Peggy Kombo
Natambola kiki tsasa maluku masina Koluka nzela nino kuyai
Masamba Roki da Silva
Namata kipeti Lokola sache pona luka nzera nini okuyai Yebisanga talilo
De retour dans cette émission, après cette chanson Troisième Doigt de Ferré Gola avec nos invités qui sont bien installés, toujours installés avec nous jusqu'à la fin. On a parlé avec Anaïs tout à l'heure de l'immobilier, on parle aussi avec notre très chère Sandrine de Sororité, de son collectif, on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a aussi un chanteur avec nous qui vient de la Centrafrique, qui a une belle histoire que vous devez absolument connaître. Cynthia nous en parle maintenant.
Tout à fait. Malaba, quand on écoute ton histoire, on comprend rapidement que tu n'es pas seulement un chanteur, tu es un voyage. Un voyage qui commence à Berberati, au cœur de la République centrafricaine, puis qui traverse les rues de Bangui, les quartiers populaires, les ambiances familiales, les sonorités qui font danser les cours et les maquis. Et comme beaucoup de jeunes Africains en quête d'avenir, un jour, tu fais tes valises. Direction le Maroc. Officiellement pour des études de médecine, mais visiblement le destin avait déjà écrit une autre ordonnance. Car pendant que tu apprenais à soigner les corps, la musique, elle, commençait à parler à ton âme. Et en 2016, tout bascule. Tu entres dans le studio, tu prends le micro et surtout, tu trouves ta voix. Puis arrive ce titre devenu incontournable. Il calcule à l'AAP. Est-ce que j'ai bien dit ?
Bien prononcé. Il calcule à l'AAP.
Et soudain, toute la Centrafrique découvre un artiste qui lui ressemble. Un artiste qui parle comme le peuple, qui chante les réalités du peuple et qui pense comme le peuple. C'est là que naît celui que beaucoup appellent aujourd'hui l'artiste du peuple. Mais toi, tu ne voulais pas seulement faire danser, tu voulais aussi éveiller les consciences, parler de réussite, d'amour, de famille, d'espoir, de responsabilité. Parce que tu fais partie de ces artistes qui pensent qu'un refrain peut parfois faire réfléchir autant qu'un discours. Et quand tu sors Chemin de réussite, on comprend déjà que ta musique porte bien son nom. Car ton propre parcours ressemble à ce chemin. Un chemin fait d'efforts, de sacrifices, d'éloignement et de persévérance. D'ailleurs, dans ton dossier de presse, une phrase résume parfaitement ta mission. Changer les mentalités par la musique et valoriser mon pays aux yeux de mon monde entier. Aux yeux du monde entier. Et cette phrase, on la retrouve dans chacun de tes projets. Parce que chez toi, la Centrafrique n'est jamais bien loin. Elle est aussi dans les paroles, dans les rythmes, dans l'accent, dans les valeurs, dans la fierté d'assumer, de représenter un pays dont on parle souvent pour ses difficultés, mais aussi moins pour ses talents. Mais beaucoup moins pour ses talents, pas talents. Et justement, tu as décidé de changer cela. Alors, tu crées ton propre style, le Motang Beat. Un mélange entre les sonorités afrobeat contemporaines et les rythmes traditionnels centrafricains. Comme si tu construisais un pont entre les racines et l'avenir, entre Bangui et le reste du monde. Aujourd'hui, plusieurs albums plus tard, des récompenses, des tournées, des millions d'écoutes et un public fidèle, tu restes pourtant présent à celui que tu as toujours été. Cet enfant, Kirikou, qui croit que la musique peut éduquer autant qu'elle divertit. Cet artiste qui n'a jamais oublié d'où il vient et qui continue de porter haut les couleurs de la République centrafricaine partout où il passe. Alors, ce soir, Malabar, nous allons parler de musique, nous allons parler de ta musique, de réussite de Centrafrique, de la diaspora et de ce rêve que tu portes depuis tes débuts, faire rayonner ton pays à travers ton art.
C'est bien ça ton rêve ?
Oui, exactement.
C'est un beau parcours. Hein.
Merci.
Par contre, à quel moment tu comprends ? Parce que tu passes par le Maroc, etc. Tu pars faire des études depuis Barbé. C'est quoi ? C'est Barberati, c'est ça ?
Barberati, c'est ma ville de naissance, oui.
Exactement. Et là, au final, au stade où tu es, avec tout le succès que tu as eu avec ta première chanson, à quel moment tu as compris que c'était la musique, ta voix ?
Dès mon premier succès, après les retours que j'ai eus, et c'est quelque chose que j'ai en moi. Du coup, les retours que les fans, les grandes personnes, les enfants, l'amour qu'ils me donnent, je me dis c'est une mission. Mmh. Et dès ce moment-là, je me suis mis à fond parce que je sentais que j'ai quelque chose en moi qui peut amener, qui peut changer beaucoup de choses. Donc c'est ainsi que je me suis vraiment mis à fond pour être professionnel dans ce que je fais.
Mais du coup, qu'en est-il de tes études de médecine ?
Je faisais les études de médecine et pharmacie.
Et d'une chirurgien de la musique.
T'es chirurgien de la musique.
En quelque sorte, oui, mais je suis toujours dans le domaine.
Ouais.
Là, je suis technicien en pharmacie cosmétique industrielle.
Ah, mais pas mal. Mais les parents, au départ, ils ont dû avoir très très mal au cœur d'entendre que le mec qui commence à faire la musique, alors qu'on paye très cher pour aller faire des études de médecine au Maroc, commence à coûter énormément cher.
Oui, un peu. Bon, mon père déjà fut un choriste, et pour lui...
Il était déjà dans la musique ?
Oui,
okay.
Mais ce qui l'importe beaucoup, c'est de ne pas abandonner les études, mm-hmm. de ramener de bons résultats et vivre ta passion. Mm-hmm. Oui. Donc c'était comme ça que j'ai eu moins de problèmes aussi.
C'était C'était pas trop difficile de lier les études et la musique?
Quand on veut, on peut. Ouais. C'est juste une question d'organisation, de planification, de savoir quand est-ce qu'il faut faire quoi.
Mm-hmm. Donc parce que les études liées à la santé, c'est pas facile, hein?
Oui,
c'est lourd, hein. Et c'est très long.
C'est long, c'est... ouais.
Oui, 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 oui.
Mais bravo,
surtout
en tout cas.
Surtout la médecine générale.
Ouais.
Mais au début, c'était difficile. Mais quand, au fur et à mesure que tu avances, donc ça allège un peu, quoi.
Ton titre calcule à l'AAP.
Il calcule à l'AAP, oui.
Il calcule à l'AAP, ça a marqué un peu. C'était un tournant décisif dans ta carrière.
Oui.
Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que ce morceau allait changer ton parcours?
Oui, à la base, c'était un a cappella que je faisais. Déjà, de base, moi, je me voyais plus en artiste engagé, comme le Chicken Jia. Mmh. Passer des messages vraiment engagés pour changer le pays, toucher la politique. Mais quand j'ai écrit ce titre, je parlais des faits de la société.
Mmh.
Et là, j'ai eu un retour d'un grand frère. Quand j'étais encore au Maroc, j'ai eu un retour d'un grand frère qui est ici. Il m'a dit... T'as un plume, tu écris très bien. Si tu te mets en fond, tu vas marquer ton histoire.
Mm-hmm.
Et là, j'ai dit, ah, ça m'a fait un tic. J'ai dit, bon, c'est quelque chose. Et j'ai continué, j'ai écrit, j'ai fini la chanson. Et c'est comme ça, c'était parti tout seul.
Mais tu as participé à des concours, non?
Non.
Non,
concours, non. J'ai remporté des prix.
Oui, ah oui, oui voilà, oui. Tu as remporté des prix.
Oui,
mais c'est pas... confondu.
Oui.
Tu peux nous en parler?
Oui, au Maroc, j'avais remporté le prix de... J'ai oublié le nom exactement, mais c'était un prix décerné au talent africain subsaharien au Maroc.
Mm-hmm.
Et en même temps, quand j'étais au Maroc, mon titre « Il calcula la paix chemin de réussite » avait remporté ici aussi un titre au milieu de la communauté centrafricaine d'ici. Donc, en gros, c'est ça.
Mm-hmm. Alors,
le Tongo Award.
Tu l'as dit tout à l'heure que... On t'appelle l'artiste du peuple.
Oui.
Est-ce une responsabilité que le peuple t'a donnée ou c'est vraiment une responsabilité que tu te donnes toi-même?
Je me le suis donné et parce que le peuple se retrouve en moi, se retrouve dans ce que je fais. Je suis la voix du peuple, le choix du peuple parce que je passe beaucoup de messages. Mmh. En plus de divertir, je passe beaucoup de messages, je sensibilise, je digue, je motive. Donc c'est devenu une responsabilité, mais je le fais... avec une aisance, quoi.
On l'a dit aussi.
C'est pas une pression en tant que telle.
On l'a dit aussi dans la présentation que Cynthia faisait tout à l'heure. Le centre Trafrique n'est pas forcément la Centrafrique, on dit, n'est pas forcément reconnue à l'international pour ses artistes.
Oui.
Et quand t'es un artiste qui vit, toi tu vis en France.
Oui.
Comment tu vis ça? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a pas des talents qui sont qui voyagent ou c'est parce que ils n'ont pas de lucarne pour s'exprimer?
Oui, en quelque sorte, il y a tellement de talents. Mais c'est juste une question de structuration. On est moins structuré, mais il y a tellement de talents. Donc, on y travaille. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est pour communiquer, c'est pour faire découvrir. Il manque aussi des moyens de communication pour, pour parler des talents, mettre un moyen en place pour faire avancer les choses.
Est-ce que tu penses que le fait d'avoir voyagé a mis un frein à ta carrière?
Pas vraiment. Au contraire, ça m'a ouvert les yeux. J'ai beaucoup appris. Et là, j'ai une mission. C'est juste une question de temps, de mettre en place ce que je suis en train de concevoir.
Tu continues ta mission.
Oui.
On a parlé tout à l'heure de Mutton Beat.
Oui.
C'est toi qui as créé ce mélange de sonorité. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Nous dire comment tu as fait?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a inspiré?
Alors... étant un vrai centrafricain, un vrai banguissois, je me suis rendu compte qu'on a tellement de potentiel en Centrafrique, quand je parle de potentiel culturel.
Mm.
En Afrique, comme en Afrique centrale en général, mais surtout chez nous. Et parce que moi, je suis baigné dans la musique centrafricaine, mais il faut faire un pont entre... la Centrafrique et le reste du monde.
Mm-hmm.
Raison pour laquelle je me suis inspiré.
Ça veut dire quoi, Mutang?
Mutang, c'est... Il y a un style particulier de musique chez nous qui s'appelle Mutangene.
D'accord.
Et j'ai pris ce nom d'emprunt, j'ai fait Mutang Beat.
Okay.
Beat en anglais. Et ce qui veut dire... on peut encore appeler ça Afro-Centro. C'est-à-dire la musique, oui, la musique de la Centrafrique avec les rythmiques africaines.
D'accord.
Donc,
c'est un mélange
trouver... Oui, c'est un mélange.
C'est un mélange de plusieurs rythmiques africaines avec une identité centrafricaine.
Parfaitement.
C'est okay.
Alors, et je découvre. Hein.
Moi, j'ai écouté un peu les titres que tu nous envoies. D'ailleurs, on va écouter une de tes chansons pour dire que tu continues ta mission. Le titre, c'est SMS. Tu envoies un SMS à qui, en fait, à tes fans à qui?
SMS, dans ce titre, je parlais d'une relation amoureuse où ça partait en vie de débauche.
Le mec, quand je l'ai vu arriver, j'ai su que lui chantait pour l'amour.
Je fais un peu de tout. Donc, oui. c'est ça. Je parlais de l'amour. En cas de débauche, les inconvénients.
Oui.
Donc c'était ça, SMS, sans message.
Bah écoute, on écoute cette chanson SMS et on revient pour décrypter. À tout de suite.
Merci.
L'artiste du peuple. Farina, Farina. Tu fais ça, chérie, pourquoi tu fais ça? Tu sais, ils s'entendent entre nous, ils passent par toi pour détruire tout. Oui, elles sont jalouses, à la yabolingona lindango. Pourquoi tu fais ça, baby? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, chérie? Pourquoi tu fais ça? Vite, t'es qu'à monter. Pensez que cela que solution, alors que Allah y est division. Boulitima, ziletima. Boulitima, ziletima. Yegetene la kwenama, nene jacobine mamabe. Ma comprendre la soif demain, c'est déjà trop tard.
Avec la team Afro dans mon Afro Paris.
C'est une très belle rythmique et j'aime bien l'idée de mettre en avant aussi le côté musique, l'identité musicale de la Centrafrique parce que parfois on a du mal à retrouver cette identité musicale puisque la Centrafrique est tellement liée au Congo que parfois on a le sentiment que les Centrafricains font de la rumba de temps en temps et certains font du zouk à l'image de Pelouse et tout. Donc parfois, on ne retrouve pas vraiment cette identité musicale centrafricaine-là. Et toi, avec toi, on la retrouve un peu. Même s'il y a un peu de mélange, il y a une note qui fait la différence avec les autres musiques du secteur. Et ça, ça fait ton identité. C'est Merci. Très joli.
Merci.
Sandrine, je reviens à toi. Parle-nous du collectif Sorority.
Alors, le collectif Sorority a été créé en 2021. Juste après le Covid, enfin on va dire même au moment du Covid.
Alors toi, c'est pas dans le Covid, parce que la plupart des artistes qu'on reçoit dans cette émission, ils ont eu leur révélation pendant le Covid. On a été enfermés avec nous-mêmes, du coup notre cerveau a commencé à nous dire, écoute, commence à penser à toi, peut-être que t'as un talent caché quelque part, il y a quelque chose qui naît. Toi, c'est après le Covid.
Voilà, c'est, en fait c'est la présidente Fatih Tunkara,
oui.
qui était entrepreneuse, et elle avait un salon de coiffure. Et le problème qui s'est posé pendant le Covid, c'était la clientèle, etc. Mais ils avaient continué à travailler pendant cette période-là. Et un jour, elle s'est posé la question. Elle avait de l'espace, en fait, dans son salon. Et elle s'est dit, pourquoi pas faire en sorte que les entrepreneurs puissent venir et mettre en avant leur activité et en louant une partie du salon. Donc, elle a fait appel à pas mal de femmes qui faisaient des choses de son entourage. Et elle leur a dit, tu fais ça, viens. Tu fais ça, viens. Mm. Et elles venaient, elles vendaient leur...
Mais comme ça.
Oui, comme ça. C'est venu comme
ça. C'est génial.
Ouais. Et ensuite, le salon n'a pas fonctionné comme il fallait parce que le Covid a fait qu'on ne pouvait pas tenir. Donc, elle a fermé le salon. Et ensuite, elle a réfléchi, elle s'est dit, mais comment on peut faire pour qu'on puisse, que chacune puisse mettre en place leur activité, mm-hmm. et en même temps s'entraider, comme ça, en fait, on crée une entraide mutuelle, et en même temps, on crée une force féminine. On n'est pas des féministes.
Girl on power.
Non. Et du coup, après ça, elles font un collectif avec les femmes avec qui... Pardon, heureusement, j'ai plus
de... Heureusement.
Ouais. Avec les femmes qui venaient déjà au salon proposer leur activité. Donc, elles étaient plusieurs femmes. Hein, je crois qu'elles étaient une cinquantaine et tout. Elles ont créé, elles ont continué à faire des activités, des ateliers.
Elles faisaient quoi comme...
Elles faisaient un peu de tout. Il y en a qui étaient plus dans tout ce qui était speech. Donc, comment je pourrais expliquer des coachings, des psychologues, des masseuses. Mmh. Voilà, il y avait de tout, en fait. Et un jour, elles se sont dit, venez, on fait un gala. Mmh. Donc, du coup, elles ont fait le premier gala du collectif qui a eu lieu en 2023, qui s'est très bien déroulé, où ils ont récompensé des entrepreneurs. Ils avaient fait même un petit salon entrepreneurial pour faire découvrir aussi aux gens autour ce que les femmes faisaient. Et après, elles ont réfléchi, elles ont dit, il faut quand même qu'on aille plus loin. Et il y a eu l'idée de faire le programme Entreprendre au féminin. Donc le programme Entreprendre au féminin, c'est on a remarqué que nos mamans faisaient à manger et mmh. les vendaient en bas des immeubles. Voilà, au bas des immeubles ou devant les métros, etc. C'était de la vente à la sauvette.
Tout à fait.
Et il y en a d'autres qui faisaient aussi tout ce qui était traiteur. Donc on leur demande de faire, 200 plats pour un baptême.
Elles le font à la mariage, maison.
Elles le font à la maison et elles le livrent comme elles peuvent.
Micro-entreprise chez elles.
C'est ça, ouais. Exactement. Et on s'est dit, mais elles ont du potentiel, elles savent faire quelque chose, mais par contre, ce qu'elles font, elles ne peuvent pas le faire tout le temps parce que, au niveau hygiène et sécurité, il y a des soucis. En même temps, elles ne savent pas ce que c'est entreprendre. Elles le font, mais sans vraiment savoir comment on le fait. Elles n'ont pas de statut, il y a plein de choses qu'elles n'ont pas. Donc on s'est dit. Pourquoi pas les accompagner dans ce sens, qu'elles puissent
être plus structurées.
Voilà, plus structurées, avoir des formations entrepreneuriales, avoir des formations pour l'hygiène et sécurité alimentaire, avoir des formations en cuisine, avoir en plus des activités qui sont proposées, la psychologie, la sophrologie, mm-hmm. le sport. Bon, moi, je suis éducatrice sportive de métier, donc c'est moi qui donne les cours de sport aux mamans. Le sport. et plein d'autres ateliers pour justement évoluer et pouvoir, comment dire, vivre de leur activité, mais de manière formelle. Mmh. Là, on a 15 femmes recrutées. Ça fait maintenant 2 ans. Elles sont là, elles préparent... il y en a qui font 3... En fait, il y a 3 parcours dans notre association, y a, dans le programme. Il y a le parcours cuisine, le parcours décoration événementielle et le parcours création de cosmétiques. Monsieur... qui est en plus...
Il va se sentir concerné, voilà, c'est un pharmacien.
C'est ça. Donc, on a fait venir des personnes pour former les femmes de façon à ce qu'elles puissent elles-mêmes aussi être autonomes et pouvoir faire les choses correctement selon les parcours. Donc là, cette année, en fait, l'année dernière, donc on était sur les 3 volets. Cette année, on s'est un peu plus consacré dans la cuisine parce que vraiment, c'est ce qui était le plus demandé. On a aussi eu des échos sur tout ce qui était médical, donc aide médicale, aide à la personne, etc. Donc, c'est des choses qu'on envisage de faire et voir, en fait, dans la progression et dans l'évolution de l'association, ce qu'on peut proposer de nouveau. Et voilà. Et donc là, nous, on est soutenus par la préfecture du 94, puisque nous, on est dans le 94. Et le GPCEA, c'est les communautés de communes. Donc, c'est des communes qui sont qui travaillent ensemble pour pouvoir aider les villes à se développer et les associations des villes à se développer. Donc, on est subventionné par ces différentes institutions, et ce qui nous permet de faire les programmes et ce qui nous permet aussi de former et de faire des activités pour les femmes. Tout au long de l'année.
Mais c'est un énorme projet.
Oui.
C'est vaste. Alors, elle est venue toute seule comme ça pour parler d'un truc, mais c'est au énorme début, le projet en fait.
Ouais.
Waouh, il y a du monde derrière. Hein.
Ouais. On est bien soutenu, déjà par l'État, qui nous soutient parce que il y a un projet de l'État qui s'appelle Entreprendre 2030. Donc, ils veulent qu'il y ait un certain nombre d'entrepreneurs dans les quartiers prioritaires. Et du coup, nous, on participe un peu.
Ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous aidez ces dames-là à sortir de l'informel.
Exactement.
Et à faire une activité officielle. Et c'est un intérêt pour l'État parce que finalement, tout cet argent perdu qui ne rentre pas dans tout ce qui est commercial va finalement intégrer. Pouvoir évaluer au maximum l'apport du secteur.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Parce que dans tous les États, le vrai combat, c'est de récupérer tout l'argent perdu du secteur informel. Et là, vous aidez ces femmes-là à se structurer et à rentrer dans le formel. Et ça, c'est intéressant.
C'est ça.
Et comment elles le vivent? Parce que c'est peut-être pas évident pour elles aussi. C'était peut-être une facilité pour elles de faire leur petit commerce en bordure de route, faire de petites livraisons. Là, structuré comme ça, ça fait peur un peu, non?
Exactement, ça fait peur parce qu'en fait, déjà, elles se sentent pas forcément capables de le faire.
Oui, et crédibles.
Et crédibles parce que tout ce qui est création d'entreprise, même si ça peut, de l'auto-entrepreneuriat à la structure entreprise individuelle, il faut savoir comment faire. Donc, tout ça, il faut leur expliquer comment on peut être entrepreneur et ce que ça impacte dans la vie de chacune. Parce qu'être entrepreneur, après, derrière, il y a des taxes, il y a des choses, alors que dans l'informel, c'est tout pour soi. Mais en même temps, elles ont besoin de se développer. Pas rester que dans cette ghettoisation, on va dire, de leur travail, quoi. Donc, nous, on veut qu'elles puissent évoluer, mais pour ce faire, on a eu accès à un local. Dans ce local-là, on va créer une cuisine aménagée en bas de quartier avec des box partagées pour les femmes qui sont entrepreneurs, pas forcément dans la cuisine, mais qui font autre chose et qui ont besoin d'un espace pour pouvoir faire leur activité. Donc, il y aura les box pour ça. Et la cuisine aménagée, pour les femmes des quartiers, elles viennent. On voudrait faire à manger, on ne veut pas le faire à la maison, on veut le faire dans la cuisine qui est bien...
bien équipée.
Voilà, bien équipée et qui est dans l'hygiène et sécurité, qui regroupe les normes.
Qui respecte les normes.
Voilà. Donc, ça sécurise aussi qu'il n'y ait pas de malades derrière.
Ça les sécurise elles-mêmes.
Et elles-mêmes aussi, voilà. Donc, et comme c'est dans le milieu associatif, du coup, elles viennent. Nous aussi, on travaille avec les villes. Et on aimerait que les villes les prennent en tant que voilà, prestataires de leurs événements.
Qui faisaient des marchés. Hein.
Exactement. Par exemple, font les vœux du maire, ils ont besoin d'un buffet, ce seraient les femmes qui le confectionnent. Voilà. Donc, franchement, bien, c'est des entreprises ou peu importe.
C'est une très, très belle initiative. Et in fine, à long terme, comme tu l'as déjà dit, le but, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir une entreprise viable sur le long terme, avoir des partenariats avec les communautés, avec les mairies.
C'est ça, tout ça, c'est intéressant. C'est ça, exactement.
Vous avez un événement ?
Oui, donc nous avons un événement le 26 juin. C'est un gala qui va se dérouler à Brie-sur-Marne, dans le 94. Venez. Hein. Venez nous soutenir.
Mais parlons de quoi il est question de
voilà,
cet événement.
Alors, cet événement, c'est pour justement faire une levée de fonds pour pouvoir aménager et faire les travaux du local qu'on a.
Pour les
qu'on
box, a négocié. La cuisine.
Voilà, les box et tout. Donc, on aura des subventions certainement, mais il faudrait que nous-mêmes aussi, on puisse avoir des fonds autres, propres, pour pouvoir justement aménager et avoir suffisamment de sous.
Raconte-nous, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous allez présenter à cet événement ? Qu'est-ce qu'il y aura ?
Alors, à cet événement, justement, les femmes vont confectionner le repas de A à Z, hein, de l'entrée au dessert, avec le chef qui les suit à l'année, qui leur apprend les codes, tout ça, comment on dresse, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça. Et on a un autre chef qui est chef Michelin, Monsieur Bozek, qui va venir aussi pour...
Qui sont les chefs qui vont les accompagner ?
Alors, Monsieur Bertin et Monsieur Bozek. Voilà, c'est les deux chefs qui vont nous accompagner lors de ce gala-là. Donc, c'est une immersion pour elles. Donc, ça va être chaud.
C'est très bien.
pour 150 personnes, il faut qu'elles fassent les plats. Voilà, et du coup, il y aura les invités, les
rien,
partenaires.
Hein. C'est rien, on a de grosses familles en Afrique. Généralement, pour les fêtes, elles font ça. Donc, oui, elles sont... Bon, après... Ouais. Respectant toutes les normes, c'est autre chose.
C'est ça, avec toutes les normes, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Et puis là, il y a quand même entrée, plat, dessert.
Ouais.
Et on demande à ce que ce soit gastronomique. Donc, il y a beaucoup de finesse et
oui.
Ça prend du temps. Et
bon, après, elles ont été encadrées un peu
Exactement.
Par ces chefs-là. Donc, elles ont appris un peu. Il y a eu un peu
Exactement.
De formation en amont.
Oui, oui,
donc,
beaucoup même.
Ça va être très bien pour elles parce qu'elles vont découvrir la chose dans le feu de l'action.
Exactement.
Hein, dans la formation, on s'exerce un peu, mais là, on est vraiment dedans.
Voilà, là, c'est l'immersion. On est dedans, on montre ce qu'on a fait toute l'année. Ce qu'on sait faire, on se valorise du coup, et elles sont valorisées elles-mêmes, elles se disent on est capable de faire des choses au-delà de ce qu'on fait d'habitude, et ça
c'est génial.
C'est super. Et ça leur a pris combien de temps pour préparer ce gala ?
Bah là on le prépare, ça fait deux
ça
ans
fait
quoi.
Deux ans.
Ouais, ça fait deux ans qu'on prépare ce gala.
Vous devez être fiers.
Ah oui, on est.
On va y arriver.
Ouais, on y arrive doucement.
Mais comment vous avez fait pour avoir vos intervenants ?
Bah en fait, on les a démarchés un peu dans les réseaux. Voilà. Mm-hmm. Donc, Monsieur Bertin, lui, c'est particulier parce que comme il est dans le 94 à Bonneuil, et nous, on n'est pas loin, on est Créteil-Limeil, tout ça. Mm-hmm. Et du coup, on nous l'a mis en fait en contact parce qu'on cherchait un chef. Et on s'est dit, on va prendre un chef qui connaît quand même un peu le public. Et,
oui.
Et on ne savait pas trop. On a eu plusieurs chefs. Hein, et puis, parmi tous les chefs, on a dit, ben non, on va prendre
c'est
lui.
C'est lui qui...
Voilà,
qui...
on l'a choisi, Monsieur Bert.
Donc, c'est vous qui l'avez choisi.
On l'a choisi, oui.
Ouais. Il correspondait
bon
à ce que vous recherchez.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Alors, Malabar,
oui.
Ça va, t'es avec nous ?
Oui, toujours.
Et c'est intéressant. Pourquoi nous, les hommes, on ne ferait pas des choses comme ça ? Pour nos frérots qui font des petites affaires, qui ont besoin d'aide, pourquoi on ne ferait pas ça ?
C'est une très bonne idée.
Mais c'est bien d'avoir ces actions-là pour ces dames qui charbonnent, hein, on lui dit. Hein. Moi, j'en vois... dans mon quartier, les commandes qu'elles ont dans les événements. Et en plus, elles le font avec beaucoup de passion. Parfois, elles ne gagnent pas grand-chose.
Ah, oui.
Mais elles le font avec tellement d'amour. Je pense qu'elles le font avec plus d'amour que quand on va même commander un service traiteur et tout. Elles le font avec plus d'amour.
Ce sont des mamans. En fait, pour elles, ça coule de source de cuisiner. Et en fait, de faire un événement comme ça, de les accompagner, ça leur permet aussi de se rendre compte que ce qu'elles font, c'est plus que de la cuisine, c'est incroyable.
Oui.
Quand j'ai rencontré Sandrine, je lui disais que, par exemple, ma mère, quand elle cuisine, ça, pour elle, c'est normal de faire à manger pour tout le monde.
Bah
parce qu'elle fait
à
manger, elle ne sait même pas pour qui elle va cuisiner. Elle fait à manger pour nous.
C'est pareil.
Et puis, si quelqu'un passe, la personne vient, on ne sait pas si quelqu'un va venir, mais elle fait, et c'est normal.
Oui.
Aujourd'hui, je pense que c'est parce que maintenant, je vis en France, moi, je me dis, mais je fais à manger pour moi. Si quelqu'un vient, tu te débrouilles avec ton ventre.
Chez nous, Bled... Chez nous, au bled, il y a à manger à toutes les heures. Il n'y a pas que le déjeuner, le repas du midi, le goûter, le soir. Non, il y a à manger à toutes les heures, en fait, parce qu'il y en a toujours.
Et tous les jours, et chaque jour, ce n'est pas le même repas. Hein.
Non, c'est pas...
ça change.
On change tout le temps.
Alors, maman se réveille à 5 heures du matin pour faire à manger. C'est ça.
On gèle ici.
Ah oui, au bled, c'est une sauce tous les jours, un repas différent tous les jours. Mais elles ont cette... cette capacité de s'investir là, c'est énorme. Ouais. Alors toi, Malabar, pour changer de sujet complètement, c'est quoi tes références en musique?
Mes références, j'écoute un peu de tout. J'écoute le groupe Magic System, par exemple. J'écoute Papa Wemba, j'écoute Koffi Olomide, j'écoute Fally Ipupa, j'écoute de la musique tanzanienne.
Est-ce que tu vas du côté de la Caraïbe?
Quand j'ai vu ton chapeau, j'ai vu ta cravate, j'ai senti de la musique crête tanzanienne et du Papa Wemba. C'est un mélange des deux, là.
Merci. Ouais, vrai, j'écoute du cassave aussi.
Ah, la base.
C'est un rythme très entraînant que je kiffe très bien.
Est-ce que tu n'as pas peur de perdre tes mélomanes en ayant autant d'influence dans ta musique?
Au contraire, je suis instruit quand j'écoute beaucoup. Ça va me... En fait, j'écoute, je m'inspire, mais je ne triche pas. Du coup, je ne vais pas me perdre. Je sais ce que je fais. Donc, c'est plus à l'aise. Quand tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas. Et puis, ça va.
Parlons de musique centrafricaine. On disait qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes centrafricains qui sont connus ailleurs et tout. Y en a une que nous, on connaît particulièrement ici. Oui. J'en parlais tout à l'heure. Ce n'est pas un piège. Hein. Pelouse, tu connais?
Très bien, oui, je connais.
Je veux qu'on écoute une chanson de Pelouse. C'est son dernier single, c'est Paradise. Et d'ailleurs, Pelouse qui était en concert il n'y a pas longtemps, et ce concert, vous allez l'écouter sur les ondes de Mon Paris FM et One Radio Abidjan dans quelques semaines. C'était un très très beau concert avec des artistes invités qui ont joué leur partition, beaucoup de couleurs, et c'était très 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 beau. On parle de musique centrafricaine aujourd'hui, et voici Pelouse.
Avec plaisir.
Votre rendez-vous africain tous les vendredis soirs sur Mon Paris FM.
Et oui, et toujours, et sur, sur One Radio Abidjan également, vous écoutez cette émission. Nous sommes dans le dernier carton de l'émission là. On parlait avec Malabar et on vient d'écouter le titre Paradise de Pelouse, qui est aussi une artiste centrafricaine. Dis-moi, ton actualité, c'est quoi, Malabar ?
L'actualité, pour le moment, j'annonce un concert à Bangui.
Ok.
Pour 1600 places, donc en mois de décembre, 19 décembre 2026. C'est l'actualité principale.
Tu vas à Bangui pour un concert ?
Oui.
Alors, ok, du coup, c'est une bonne nouvelle, ça ?
Oui,
est-ce que là-bas, est-ce qu'ils sont informés que tu viens en concert ?
Oui, les affiches sont déjà dehors avec les tarifs. Donc, on attend juste le temps prévu pour l'ouverture de la billetterie.
Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais au-delà de... Est-ce que les week-ends, tu es en live, tu as un band, tu tournes, tu fais des choses musicalement, c'est quoi tes activités ?
Oui, ça m'arrive dans le cas où je suis sollicité. Mm-hmm. Mais la plupart du temps, pour le moment, je me consacre plus au travail, répétition, prendre soin de moi pour bien préparer ce que je réserve à mon public au pays.
J'ai l'impression que la musique centrafricaine, elle n'est pas méga dansante. La plupart des artistes centrafricains, il y en a certains que j'ai vus, hein. Il n'y a pas beaucoup de danse, c'est très langoureux, c'est très romantique, c'est très rêverie. Est-ce que je me trompe ?
Largement. Il y a des musiques très entraînantes. Par exemple, mon titre Guarayani, c'est un titre, j'ai beaucoup de titres qui sont très entraînants, très dansants. Donc, il suffit de faire des recherches, de demander.
Mm-hmm.
On fait la musique slow, un peu rumba, zouk et tout, mais il y a aussi le côté entraînant, très dansant.
D'ailleurs, au concert de Pelouse, j'ai fait de belles découvertes d'artistes centrafricains et qu'on va recevoir dans cette émission très bientôt d'ailleurs. Mais waouh, une scène, il y a une énergie, il y a une émulation de cette scène-là en France actuellement, mais elle n'a pas de visibilité. Et c'est vraiment une frustration pour moi, hein, parce que moi, j'estime que cette culture-là, elle devrait être davantage vue et reconnue parce qu'il y a de très bons acteurs dedans.
Oui.
Et puis, il y a un gros travail qui est fait, quoi, tu vois.
Oui.
Toi qui es dedans depuis, qu'est-ce que tu penses qu'il manque à cette scène pour qu'elle soit reconnue et vue ?
C'est comme je disais tout à l'heure, c'est une structuration et mettre les moyens de communication en place, de s'imposer. Là, on est en train de mettre les bases. Là, il nous faut vraiment des collaborations aussi pour être entendu. Parce qu'il y a du potentiel, il y a beaucoup de talent. D'essayer d'ouvrir des portes.
Mmh. Est-ce que vous avez des contacts entre vous, artistes et créateurs centrafricains, ici à Paris ?
Oui, il y en a beaucoup. Alexandre, tu as vu beaucoup d'invités pendant le concert de Pelouse.
Tout à fait.
Oui.
Mais c'est très bien, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter.
Merci.
Voilà, c'était un plaisir pour moi de te recevoir dans cette émission et découvrir ton univers. On ne va pas se séparer sans écouter ton dernier titre, on en parle tout à l'heure. Et cette chanson-là, j'ai oublié le titre, tu me rappelles s'il te plaît ?
Barayani,
c'est cette chanson qui est entraînante ?
Oui, c'est l'ambiance à la centrafricaine.
Ah, on va danser, tu vas nous montrer les pas de cette danse-là.
Avec plaisir.
Et Sandrine, avec toi, quel est le dernier message par rapport à cet événement et par rapport à ton collectif ?
Ben, venez nous soutenir, venez soutenir les mamans. Je répète la date, donc le 26 juin, ce sera à Bry-sur-Marne, au Palais de la Marne. Et du coup, venez, franchement, ce serait
un accomplissement. Comment on peut faire pour
m'avoir ? Alors, on est sur Insta,
oui.
Donc il y a un lien aussi, vous pouvez y aller. Donc, Collectif Sorority, et il y a un lien, il y a un taser qui présente en fait l'événement. Et vous avez un lien pour vous inscrire et... Mm-hmm. Pour pouvoir prendre une place, voilà. Et faire un don aussi, si vous voulez.
Merci d'être venu nous en parler. On souhaite beaucoup de succès à vos actions avec le collectif Sorority. On se dit à très bientôt. On sera certainement là pour vous soutenir, vous accompagner.
Super, merci beaucoup.
Alors, du coup, tu nous parles de cette chanson Barayani.
Oui.
De quoi tu parles ?
Barayani, c'est, comme je disais, c'est la jovialité, c'est l'ambiance à la centrafricaine. Voilà.
C'est la fête, quoi ?
Oui. En gros, c'est ça, c'est la fête.
Bon, alors les amis, Cynthia, on se dit au revoir.
Déjà. 1h30, ça passe
vite. Ça passe tellement vite.
J'espère que les auditeurs ont passé un aussi bon moment que nous.
Tout à fait. Merci Kyriane, merci à toi pour la réalisation. Merci à mon très cher...
C'est un plaisir, c'est un grand plaisir.
D'être venu.
Merci à vous.
Merci Sandrine. On
merci
se sépare avec cette grosse ambiance Barayani dans le studio. J'espère que vous allez voulez vous danser, hein, parce que notre très cher ami va nous montrer les pas. Allez, salut, à la semaine prochaine et très
merci.
Bon week-end sur la radio.
Bon week-end.
L'artiste du peuple. Yeah.
na molongo. Pase kwa na molongo. Ti ti na molongo. Baba na mama na molongo. Ti ti. Barayani. Barayani. Barayanyo. Barayani. Kotiko. 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 Kotiti. Kotiko. 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 Kotiti. Kete kete koko na kbati soup. Yabanda. Kete kete koko na kbati soup. Uniyo yabanda. Barayani. Barayani. Barayanyo. Barayani. Koto koto to. Tolingo no malabare.
Centre.